Suite du chapitre 2. Il était 4h10. Zoé s'étonnait, ne comprenant pas que madame restât si longtemps dehors. D'ordinaire, lorsque madame se trouvait forcée de sortir, l'après-midi, elle emballait ça, et rondement. Mais madame Maloire déclara qu'on ne faisait pas toujours les choses comme on voulait. « Certainement, il y avait des anicroches dans la vie, » disait madame Lerat. « Le mieux était d'attendre. » Si sa nièce s'attardait, ça devait être que ses occupations la retenaient, n'est-ce pas? D'ailleurs, on ne peinait guère. Il faisait bon dans la cuisine. Et, comme elle n'avait plus de cœur, madame Lerat jeta du carreau. La sonnerie recommençait. Quand Zoé reparut, elle était tout allumée. « Mes enfants, le gros sténère !» dit-elle dès la porte en baissant la voix. « Celui-là, je l'ai mis dans le petit salon. » Alors, madame Maloire parla du banquier à madame Lerat, qui ne connaissait pas ces messieurs. « Est-ce qu'il était en train de lâcher Rose Mignon ?» Zoé hochait la tête. Elle savait des choses. Mais, de nouveau, il lui fallut aller ouvrir. « Bon, une tuile » murmura-t-elle en revenant. « C'est le moricaud. J'ai eu beau lui répéter que madame était sortie, il s'est installé dans la chambre à coucher. Nous ne l'attendions que ce soir. » À 4h15, Nana n'était pas encore là. Que pouvait-elle faire? Ça n'avait pas de bon sens. On apporta deux autres bouquets. Zoé, ennuyée, regarda s'il restait du café. Oui, ces dames finiraient volontiers le café, ça les réveillerait. Elles s'endormaient, tassées sur leurs chaises, à prendre continuellement des cartes au talon du même geste. La demi sonna. Décidément, on avait fait quelque chose à madame. Elles chuchotaient entre elles. Tout à coup, s'oubliant, madame Maloire annonça d'une voix éclatante. « J'ai le 500, quinte majeure d'atout. » « Taisez-vous donc, » dit Zoé avec colère. « Que vont penser tous ces messieurs ?» Et, dans le silence qui régna, dans le murmure étouffé des deux vieilles femmes se querellant, un bruit de pas rapide monta de l'escalier de service. C'était Nana, enfin. Avant qu'elle eût ouvert la porte, on entendit son essoufflement. Elle entra, très rouge, le geste brusque. Sa jupe, dont les tirettes avaient dû casser, essuyait les marches, et les volants venaient de tremper dans une mare. Quelques pourritures coulaient du premier étage, où la bonne était un vrai souillon. « Te voilà, ce n'est pas malheureux !» dit madame Lerat, les lèvres pincées, encore vexée des 500 de madame Maloire. « Tu peux te flatter et de faire poser les gens. »« Madame n'est pas raisonnable, vraiment !» ajouta Zoé. Nana, déjà mécontente, fut exaspérée par ses reproches. Si c'était comme ça qu'on l'accueillait, après l'embêtement qu'elle venait d'avoir... « Fichez-moi la paix, hein » cria-t-elle. « Chut, madame, il y a du monde !» dit la bonne. Alors, baissant la voix, la jeune femme bégaya, haletante. « Est-ce que vous croyez que je me suis amusée? Ça n'en finissait plus. J'aurais bien voulu vous y voir. Je bouillais, j'avais envie de ficher des claques. Et pas un fiacre pour revenir. Heureusement, c'est à deux pas. N'importe, j'ai joliment couru. « Tu as l'argent ?» demanda la tante. « Tiens, cette question !» répondit Nana. Elle s'était assise sur une chaise, contre le fourneau, les jambes coupées par sa course. Et, sans reprendre haleine, elle tira de son corsage une enveloppe dans laquelle se trouvaient 4 billets de 100 francs. On voyait les billets par une large déchirure qu'elle avait faite d'un doigt brutal pour s'assurer du contenu. Les trois femmes autour d'elle regardaient fixement l'enveloppe, un gros papier froissé et sali entre ses petites mains gantées. Il était trop tard, madame Lerat n'irait que le lendemain à Rambouillet. Nana entrait dans de grandes explications. « Madame, il y a du monde qui attend !» répéta la femme de chambre. Mais elle s'emporta de nouveau. Le monde pouvait attendre. tout à l'heure, quand elle ne serait plus en affaires. » Et comme sa tante avançait la main vers l'argent, « Ah non, pas tout !» dit-elle. « 300 francs à la nourrice, 50 francs pour ton voyage et ta dépense, ça fait 350. Je garde 50 francs. » La grosse difficulté fut de trouver de la monnaie. Il n'y avait pas 10 francs dans la maison. On ne s'adressa même pas à Madame Maloire, qui écoutait d'un air désintéressé, n'ayant jamais sur elle que les 6 sous d'un omnibus. Enfin, Zoé sortit en disant qu'elle allait voir dans sa malle, et elle rapporta 100 francs en pièces de 100 sous. On les compta sur un bout de la table. Madame Lerat partit tout de suite, après avoir promis de ramener Louiset le lendemain. « Vous dites qu'il y a du monde ?» reprit Nana, toujours assise, se reposant. « Oui, madame, 3 personnes. » Et elle nomma le banquier le premier. Nana fit une moue. Si ce Stenner croyait qu'elle se laisserait ennuyer parce qu'il lui avait jeté un bouquet la veille. « D'ailleurs, déclara-t-elle, j'en ai assez, je ne recevrai pas. Allez dire que vous ne m'attendez plus. » « Madame réfléchira, madame recevra monsieur Stenner, » murmura Zoé sans bouger, d'un air grave, fâchée de voir sa maîtresse sur le point de faire encore une bêtise. Puis elle parla du valac, qui devait commencer à trouver le temps long dans la chambre. Alors Nana, furieuse, s'entêta davantage. Personne, elle ne voulait voir personne. Qui est-ce qui lui avait fichu un homme aussi collant? Flanquez tout ça dehors. Moi, je vais faire un bésigue avec Madame Maloire. J'aime mieux ça. » La sonnerie lui coupa la parole. Ce fut le comble. Encore un raseur. Elle défendit à Zoé d'aller ouvrir. Celle-ci, sans l'écouter, était sortie de la cuisine. Quand elle reparut, elle dit d'un air d'autorité, en remettant 2 cartes, « J'ai répondu que Madame recevait. Ces messieurs sont dans le salon. » Nana s'était levée rageusement. Mais les noms du marquis de Chouard et du comte Muffat de Beuville sur les cartes la calmèrent. Elle resta un instant silencieuse. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » demanda-t-elle enfin. « Vous les connaissez ?»« Je connais le vieux, » répondit Zoé en pinçant la bouche d'une façon discrète. Et comme sa maîtresse continuait à l'interroger des yeux, elle ajouta simplement « Je l'ai vu quelque part. » Cette parole sembla décider la jeune femme. Elle quitta la cuisine à regret, ce refuge tiède où l'on pouvait causer et s'abandonner dans l'odeur du café, chauffant sur un reste de braise. Derrière son dos, elle laissait Madame Maloire, qui maintenant faisait des réussites. Elle n'avait toujours pas ôté son chapeau. Seulement, pour se mettre à l'aise, elle venait de dénouer les brides et de les rejeter sur ses épaules. Dans le cabinet de toilette, où Zoé l'aida vivement à passer un peignoir, Nana se vengea des ennuis qu'on lui causait en mâchant de sourds jurons contre les hommes. Ces gros mots chagrinaient la femme de chambre, car elle voyait avec peine que Madame ne se décrassait pas vite de ses commencements. Elle osa même supplier Madame de se calmer. « Ah, oui !» répondit Nana crûment. « Ce sont des salauds, ils aiment ça !» Pourtant, elle prit son air de princesse, comme elle disait. Zoé l'avait retenue au moment où elle se dirigeait vers le salon, et d'elle-même, elle introduisit dans le cabinet de toilette le marquis de Chouard et le comte Muffat. C'était beaucoup mieux. « Messieurs, dit la jeune femme avec une politesse étudiée, je regrette de vous avoir fait attendre. » Les 2 hommes saluèrent et s'assirent. Un store de tulle brodée ménageait un demi-jour dans le cabinet. C'était la pièce la plus élégante de l'appartement, tendue d'étoffe claire, avec une grande toilette de marbre, une psyché marquetée, une chaise longue et des fauteuils de satin bleu. Sur la toilette, les bouquets, des roses, des lilas, des jacinthes, mettaient comme un écroulement de fleurs, d'un parfum pénétrant et fort. Tandis que, dans l'air moite, dans la fadeur exhalée des cuvettes, traînait par instant une odeur plus aiguë, quelques brins de patchouli sec, brisés menus au fond d'une coupe. Et, se pelotonnant, ramenant son peignoir mal attaché, Nana semblait avoir été surprise à sa toilette, la peau humide encore, souriante, effarouchée au milieu de ses dentelles. « Madame, dit gravement le comte Muffat, vous nous excuserez d'avoir insisté, nous venons pour une quête. Monsieur et moi sommes membres du bureau de bienfaisance de l'arrondissement. » Le marquis de Choire se hâta d'ajouter d'un air galant, « Quand nous avons appris qu'une grande artiste habitait cette maison, nous nous sommes promis de lui recommander nos pauvres d'une façon particulière. Le talent ne va pas sans le cœur. » Nana jouait la modestie. Elle répondait par de petits mouvements de tête, tout en faisant de rapides réflexions. Ça devait être le vieux qui avait amené l'autre. Ses yeux étaient trop polissons. Pourtant, il fallait aussi se méfier de l'autre, dont les tempes se gonflaient drôlement. Il aurait bien pu venir tout seul. C'était ça, le concierge l'avait nommé, et ils se poussaient, chacun pour son compte. « Certainement, messieurs, vous avez eu raison de monter, » dit-elle, pleine de bonne grâce. Mais la sonnerie électrique la fit tressaillir. Encore une visite, et cette Zoé qui ouvrait toujours. Elle continua, « On est trop heureux de pouvoir donner. » Au fond, elle était flattée. « Ah, madame, » reprit le marquis, « si vous saviez quelle misère. Notre arrondissement compte plus de 3 000 pauvres, et encore est-il un des plus riches. Vous ne vous imaginez pas une pareille détresse. Des enfants sans pain, des femmes malades, privées de tout secours, mourant de froid. « Les pauvres gens !» cria Nana, très attendrie. Son apitoiement fut tel que des larmes noyèrent ses beaux yeux. D'un mouvement, elle s'était penchée, ne s'étudiant plus, et son peignoir ouvert laissa voir son cou, tandis que ses genoux tendus dessinaient, sous la mince étoffe, la rondeur de la cuisse. Un peu de sang parut aux joues terreuses du marquis. Le comte Muffat, qui allait parler, baissa les yeux. Il faisait trop chaud dans ce cabinet, une chaleur lourde et enfermée de serre. Les roses se fanaient, une griserie montait du patchouli de la coupe. « On voudrait être très riche dans ces occasions, » ajoutait Nana. « Enfin, chacun fait ce qu'il peut. Croyez bien, messieurs, que si j'avais su... » Elle était sur le point de lâcher une bêtise dans son attendrissement. Aussi n'acheva-t-elle pas la phrase. Un instant, elle resta gênée, ne se rappelant plus où elle venait de mettre ses 50 francs en ôtant sa robe. Mais elle se souvint. Il devait être au coin de la toilette, sous un pot de pommade renversé. Comme elle se levait, la sonnerie retentit longuement. Bon, encore un, ça ne finirait pas. Le comte et le marquis s'étaient également mis debout, et les oreilles de ce dernier avaient remué, se pointant vers la porte. Sans doute, il connaissait ses coups de sonnette. Muffat le regarda, puis ils détournèrent les yeux. Ils se gênaient, ils redevinrent froids. L'un, carré et solide, avec sa chevelure fortement plantée, l'autre redressant ses épaules maigres sur lesquelles tombait sa couronne de rares cheveux blancs. « Ma foi, » dit Nana, qui apportait les 10 grosses pièces d'argent, en prenant le parti de rire, « je vais vous charger, messieurs, c'est pour les pauvres. » Et le petit trou adorable de son menton se creusait. Elle avait son air bon enfant, sans pause, tenant la pile des écus sur sa main ouverte, l'offrant aux deux hommes comme pour leur dire « Voyons, qui en veut ?» Le comte fut le plus leste. Il prit les 50 francs. Mais une pièce resta, et il dut, pour la voir, la ramasser sur la peau même de la jeune femme, une peau tiède et souple qui lui laissa un frisson. Elle, égayée, riait toujours. « Voilà, messieurs, » reprit-elle, « Une autre fois, j'espère donner davantage. » Ils n'avaient plus de prétexte. Ils saluèrent en se dirigeant vers la porte. Mais, au moment où ils allaient sortir, de nouveau la sonnerie éclata. Le marquis ne put cacher un pâle sourire, tandis qu'une ombre rendait le comte plus grave. Nana les retint quelques secondes pour permettre à Zoé de trouver encore un coin. Elle n'aimait pas qu'on se rencontrât chez elle. Seulement, cette fois, ça devait être bondé. Aussi fut-elle soulagée lorsqu'elle vit le salon vide. Zoé les avait donc fourrés dans les armoires. « Au revoir, messieurs, » dit-elle en s'arrêtant sur le seuil du salon. Elle les enveloppait de son rire et de son regard clair. Le comte Muffa s'inclina, troublé malgré son grand usage du monde, ayant besoin d'air, emportant un vertige de ce cabinet de toilette, une odeur de fleurs et de femmes qui l'étouffait. Et derrière lui, le marquis de Choire, certain de n'être pas vu, osa adresser à Nana un clignement d'œil, la face tout d'un coup décomposée, la langue au bord des lèvres. Lorsque la jeune femme rentra dans le cabinet, où Zoé l'attendait avec des lettres et des cartes de visite, elle cria en riant plus fort « En voilà des panés qui m'ont fait mes 50 francs !» Elle n'était point fâchée. Cela lui semblait drôle que des hommes lui eussent emporté de l'argent. Tout de même, c'était des cochons. Elle n'avait plus le sou. Mais la vue des cartes et des lettres lui rendit sa mauvaise humeur. Les lettres passent encore. Elles venaient de messieurs qui, après l'avoir applaudi la veille, lui adressaient des déclarations. Quant aux visiteurs, ils pouvaient aller se promener. Zoé en avait mis partout. Et elle faisait remarquer que l'appartement était très commode, chaque pièce ouvrant sur le corridor. Ce n'était pas comme chez Madame Blanche, où il fallait passer par le salon. Aussi, Madame Blanche avait-elle eu bien des ennuis. « Vous allez tous les renvoyer, » reprit Nana, qui suivait son idée. « Commencez par le moricaud. »« Celui-là, madame, il y a beau temps que je l'ai congédié, » dit Zoé avec un sourire. Il voulait simplement dire à madame qu'il ne pouvait venir ce soir. Ce fut une grosse joie. Nana battit des mains. Il ne venait pas. Quelle chance! Elle serait donc libre! Et elle poussait des soupirs de soulagement, comme si on l'avait graciée du plus abominable des supplices. Sa première pensée fut pour Daguenay, ce pauvre chat auquel justement elle avait écrit d'attendre le jeudi. Vite, Madame Maloire allait faire une seconde lettre. Mais Zoé dit que Madame Maloire avait filé sans qu'on s'en aperçût, comme à son habitude. Alors Nana, après avoir parlé d'envoyer quelqu'un, resta hésitante. Elle était bien lasse. Toute une nuit à dormir, ce serait si bon. L'idée de ce régal finit par l'emporter. Pour une fois, elle pouvait se payer ça. « Je me coucherai en rentrant du théâtre, » murmurait-elle d'un air gourmand, « et vous ne me réveillerez pas avant midi. » Puis, haussant la voix, « Oup, maintenant, poussez-moi les autres dans l'escalier. » Zoé ne bougeait pas. Elle ne se serait pas permis de donner ouvertement des conseils à madame. Seulement, elle s'arrangeait pour faire profiter madame de son expérience, quand madame paraissait s'emballer avec sa mauvaise tête. « Monsieur Steiner aussi ? » demanda-t-elle d'une voix brève. « Certainement, » répondit Nana, « lui avant les autres. » La bonne attendit encore pour donner à madame le temps de la réflexion. Madame ne serait donc pas fière d'enlever à sa rivale, Rose Mignon, un monsieur si riche, connu dans tous les théâtres ? « Dépêchez-vous donc, ma chère, » reprit Nana, qui comprenait parfaitement « Et dites-lui qu'il m'embête !» Mais brusquement, elle eut un retour. Le lendemain, elle pouvait en avoir envie, et elle cria avec un geste de gamin, riant, clignant les yeux. « Après tout, si je veux la voir, le plus court est encore de le flanquer à la porte !» Zoé parut très frappée. Elle regarda madame, prise d'une subite admiration. « puis alla flanquestiner à la porte sans balancer. Cependant, Nana patienta quelques minutes pour lui laisser le temps de balayer le plancher, comme elle disait. On n'avait pas idée d'un pareil assaut. Elle allongea la tête dans le salon. Il était vide. La salle à manger, vide également. Mais, comme elle continuait sa visite, tranquillisée, certaine qu'il n'y avait plus personne, elle tomba tout d'un coup sur un petit jeune homme en poussant la porte d'un cabinet. Il était assis en haut d'une malle, bien tranquille, l'air très sage, avec un énorme bouquet sur les genoux. « Ah, mon Dieu ! » cria-t-elle. « Il y en a encore un là-dedans !» Le petit jeune homme, en l'apercevant, avait sauté à terre, rouge comme un coquelicot. Et il ne savait que faire de son bouquet, qu'il passait d'une main dans l'autre, étranglé par l'émotion. Sa jeunesse, son embarras, la drôle de mine qu'il avait avec ses fleurs, attendrirent Nana, qui éclata d'un beau rire. Alors, les enfants aussi? Maintenant, les hommes lui arrivaient au maillot? Elle s'abandonna, familière, maternelle, se tapant sur les cuisses et demandant par rigolade « Tu veux donc qu'on te mouche, bébé ?»« Oui, » répondit le petit d'une voix basse et suppliante. Cette réponse l'égaya davantage. Il avait 17 ans, il s'appelait Georges Hugon. La veille, il était aux variétés, et il venait la voir. « C'est pour moi, ces fleurs ?»« Oui. » « Donne-les donc, Nigo !» Mais comme elle prenait le bouquet, il lui sauta sur les mains avec la gloutonnerie de son bel âge. Elle dut le battre pour qu'il lâchât prise. En voilà un morveux qui allait raide. Tout en le grondant, elle était devenue rose. Elle souriait. Et elle le renvoya en lui permettant de revenir. Il chancelait. Il ne trouvait plus les portes. Nana retourna dans son cabinet de toilette, où Francis se présenta presque aussitôt pour la coiffer définitivement. Elle ne s'habillait que le soir. Assise devant la glace, baissant la tête sous les mains agiles du coiffeur, elle restait muette et rêveuse, lorsque Zoé entra en disant « Madame, il y en a un qui ne veut pas partir. »« Eh bien, il faut le laisser, » répondit-elle tranquillement. « Avec ça, il en vient toujours. »« Bah, dis-leur d'attendre. Quand ils auront trop faim, ils s'en iront. » Son esprit avait tourné. Cela l'enchantait de faire poser les hommes. Une idée acheva de l'amuser. Elle s'échappa des mains de Francis, courut mettre elle-même les verrous. Maintenant, il pouvait s'entasser à côté. Il ne percerait pas le mur, peut-être. Zoé entrerait par la petite porte qui menait à la cuisine. Cependant, la sonnerie électrique marchait de plus belle. Toutes les 5 minutes, le tintement revenait, vif et clair, avec sa régularité de machine bien réglée. Et Nana les comptait pour se distraire. Mais elle eut un brusque souvenir. « Mes pralines, dites donc !» Francis, lui aussi, oubliait les pralines. Il tira un sac d'une poche de sa redingote, du geste discret d'un homme du monde offrant un cadeau à une amie. Pourtant, à chaque règlement, il portait les pralines sur sa note. Nana posa le sac entre ses genoux et se mit à croquer, en tournant la tête sous les légères poussées du coiffeur. « Fichtre !» murmura-t-elle au bout d'un silence. « Voilà une bande !» 3 fois, coup sur coup, la sonnerie avait tinté. Les appels du timbre se précipitaient. Il y en avait de modestes, qui balbutiaient avec le tremblement d'un premier aveu, de hardis, vibrant sous quelques doigts brutal, de pressés, traversant l'air d'un frisson rapide. « Un véritable carillon !» comme disait Zoé. « Un carillon a révolutionné le quartier !» Toute une cohue d'hommes tapant à la file sur le bouton d'ivoire. Ce farceur de Bordenave avait vraiment donné l'adresse à trop de monde. Toute la salle de la veille allait y passer. « À propos, Francis, » dit Nana, « avez-vous Saint-Louis ?» Il se recula examina la coiffure, puis tranquillement « Saint-Louis, c'est selon. »« Ah, vous savez, » reprit-elle, « s'il vous faut des garanties. » Et sans achever la phrase, d'un geste large, elle indiquait les pièces voisines. Francis prêta les Saint-Louis. Zoé, dans les moments de répit, entrait pour préparer la toilette de madame. Bientôt, elle dut l'habiller, tandis que le coiffeur attendait, voulant donner un dernier coup à la coiffure. Mais la sonnerie continuellement dérangeait la femme de chambre, qui laissait madame à moitié lassée, chaussée d'un pied seulement. Elle perdait la tête, malgré son expérience. Après avoir mis des hommes un peu partout, en utilisant les moindres coins, elle venait d'être obligée d'en caser jusqu'à 3 et 4 ensemble, ce qui était contraire à tous ses principes. Tant pis s'ils se mangeaient, ça ferait de la place. Et Nana, bien verrouillée, à l'abri, se moquait d'eux en disant qu'elle les entendait souffler. Ils devaient avoir une bonne tête, tous la langue pendante, comme des toutous assis en rond sur leur derrière. C'était son succès de la veille qui continuait. Cette meute d'hommes l'avait suivi à la trace. « Pourvu qu'il ne casse rien !» murmura-t-elle. Elle commençait à s'inquiéter sous les haleines chaudes qui passaient par les fentes. Mais Zoé introduisit la bordette, et la jeune femme eut un cri de soulagement. Il voulait lui parler d'un compte qu'il avait réglé pour elle à la justice de paix. Elle ne l'écoutait pas, répétant « Je vous emmène, nous dînons ensemble. De là, vous m'accompagnez aux variétés. Je n'entre en scène qu'à 9h30. » Ce bon Labordette tombait-il à propos. Jamais il ne demandait rien, lui. Il n'était que l'ami des femmes, dont il bibelotait les petites affaires. Ainsi, en passant, il venait de congédier les créanciers dans l'antichambre. D'ailleurs, ces braves gens ne voulaient pas être payés, au contraire. S'ils avaient insisté, c'était pour complimenter madame et lui faire en personne de nouvelles offres de service après son grand succès de la veille. « Filons, filons !» disait Nana qui était habillée. Justement, Zoé rentrait, criant « Madame, je renonce à ouvrir, il y a une queue dans l'escalier !» Une queue dans l'escalier! Francis lui-même, malgré le flegme anglais qu'il affectait, se mit à rire tout en rangeant les peignes. Nana, qui avait pris le bras de la bordette, le poussait dans la cuisine, et elle se sauva, délivrée des hommes enfin, heureuse, sachant qu'on pouvait la voir seule avec soi, n'importe où, sans craindre des bêtises. « Vous me ramènerez à ma porte, » dit-elle pendant qu'il descendait l'escalier de service. « Comme ça, je serai sûre. Imaginez-vous que je veux dormir toute une nuit à moi. » Une tocade, mon cher.